Étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Chapitre 4, deuxième partie de 2. Dans les révélations de Jeanne, nous venons de le voir, il n'y a rien qui sente l'illusion, l'imagination frappée, l'hallucination des sens, disons le mot, la folie. Jeanne est, au contraire, une personne de grand sens, de merveilleuse sagacité, de franchise et de sainteté extraordinaire. De quel droit récuse-t-on son témoignage? Elle affirme qu'elle est entrée en relation avec des anges et des saints. Elle confirme son assertion par son sang. Puisqu'on eût pu la condamner si elle eût voulu reconnaître qu'elle avait été séduite, et vous refusez de la croire, c'est un cruel déni de justice que rien n'autorise. Au fond, ceux qui prétendent que Jeanne s'est trompée n'ont d'autre raison que celle-ci, deux points. Il n'y a ni ange, ni saint, ou s'il y en a, ils ne peuvent nous apparaître. Jeanne d'Arc prétend que des anges et des saints lui ont apparu, donc elle s'est trompée. Et c'est une extatique, dans le sens de M. Martin, ou une visionnaire. Un pareil raisonnement détruit le principe même de l'histoire. Le seul témoignage de Jeanne suffirait à prouver l'origine divine de ses révélations. Mais ces révélations sont, en outre, marquées d'un signe caractéristique et divin. Deux points. Elles portent en elles-mêmes un sceau inimitable que la terre ni l'enfer ne peuvent contrefaire. Elles renferment des prophéties. Les voix de Jeanne ont prédit l'avenir. Elles ont annoncé avec certitude des événements futurs qu'une intelligence humaine et même angélique ne pourrait prévoir. Je vais établir ces deux points de la question. Deux points. Prédiction d'événements futurs, impossibilité de les prévoir, sinon par voie de révélation divine. L'histoire de Jeanne d'Arc nous montre cette héroïne tout illuminée de clarté céleste. Elle prévoit avec certitude les grands événements de sa mission. Elle connaît par intuition les fêtes qui se passent au loin et sème, pour ainsi dire, les prédictions sous ses pas. Parmi ces prophéties, j'en choisirai trois, avouées par tous les auteurs et qu'il est impossible de révoquer en doute. Jeanne a prédit la levée du siège d'Orléans, le couronnement du roi à Reims et la délivrance du duc d'Orléans, prisonnière en Angleterre. L'authenticité de ces prophéties est indiscutable. Voyons si on peut les attribuer à une imagination frappée ou à une des formes naturelles du développement primitif de l'esprit humain, ou bien, enfin, à l'immense expansion des forces latentes de l'âme. L'intelligence humaine n'a que trois modes de connaissance. Elle saisit la chose en elle-même, elle la voit dans ses causes ou dans ses effets, ou bien, enfin, elle la connaît par voie de révélation, c'est-à-dire par sa communication avec une intelligence distincte d'elle, à qui elle emprunte les idées et les croyances qu'elle ne possède pas de son propre fond. Ainsi, le naturaliste connaît les événements qui se passent sous ses yeux, en les saisissant en eux-mêmes, et il prévoit les événements futurs par les causes qui leur donneront naissance. Celui qui n'a point été spectateur des faits, les connaît par leurs effets ou par voie de révélation, se rapportant au témoignage de celui qui les a vus. L'ignorant peut prévoir les révolutions à venir qui dépendent des causes naturelles, sans pourtant les saisir dans leurs principes. Mais, en écoutant la parole de l'homme instruit, qui a scruté les lois de la nature. Les événements que Jeanne a prédits ne pouvaient être connus que par révélation et par révélation divine. L'intelligence humaine, en effet, et ce que je dis de l'intelligence humaine doit s'entendre de toute intelligence finie, ne pouvait les saisir en eux-mêmes, ni dans leurs effets, puisqu'une telle intuition suppose l'existence de ce qui est vu, et les événements dont il s'agit n'existaient pas encore. Pouvait-elle les saisir, les connaître avec certitude dans leur cause, comme l'astronome qui prévoit les mouvements futurs des astres? Étudions-les chacun en particulier. Jeanne annonce au dauphin Charles qu'elle lèvera le siège d'Orléans. Or, ce fait dépendait d'une multitude de causes très complexes, à savoir, deux points, la volonté du roi de se servir de Jeanne, volonté naturellement indécise, et, du reste, subordonnée au résultat des deux examens qu'allait subir cette jeune fille. L'entrée de Jeanne à Orléans, qui supposait beaucoup d'imprudence chez les Anglais, et une grande habileté chez les Français. Le courage qu'elle inspirerait aux Orléanais et l'effroi qu'elle jetterait dans l'armée ennemie. La fortune pour Jeanne de n'être frappée mortellement dans aucun combat et mille autres circonstances. Comme on le voit, parmi les causes qui ont fait lever le siège d'Orléans, il faut en premier lieu ranger les décisions du libre arbitre d'une multitude de volontés humaines. Mais ces décisions du libre arbitre ne peuvent être saisies d'avance dans leur cause, puisqu'elles ne sont pas les effets de causes nécessaires, préexistantes, mais les résultats de l'exercice spontané de la liberté humaine. Nulle intelligence humaine n'a donc pu prévoir avec certitude la levée du siège d'Orléans par d'autres voies que par voie de révélation divine. Sans doute, la volonté de l'homme peut subir l'influence morale de certaines causes, et ses décisions peuvent être, dans quelques circonstances, prévues avec probabilité. Mais dans le fait en question, toutes les probabilités étaient contre l'opinion de Jeanne, et Jeanne n'exprimait pas une espérance, mais annonçait avec certitude « Il faut, disait-elle, ou bien encore, mon conseil m'a dit. » Le second événement prédit par Jeanne, le couronnement du roi à Reims, était encore, si je puis m'exprimer ainsi, plus au-dessus de la pénétration humaine. Les causes qui le devaient produire échappaient au regard de toute intelligence finie, et dans ce que le génie le plus perspicace en pouvait saisir, rien ne justifiait, mais tout condamnait au contraire les prévisions de Jeanne. Énumérons les principales causes de cet événement. Le couronnement du roi à Reims supposait, deux points, la volonté de Baudricourt d'envoyer Jeanne au roi, et ce capitaine y était si peu disposé qu'il regardait Jeanne comme une folle et la voulait livrer à ses gens. La levée du siège d'Orléans, un fait que les voiles de l'avenir cachaient à tous les yeux. La résolution du roi de marcher sur Reims, résolution qui n'était pas à espérer de ce prince, défiant par caractère, surtout en face des obstacles humainement insurmontables dont il fallait triompher. La fortune pour le parti royal de traverser en triomphateur un vaste pays occupé par l'ennemi. La prise de Reims, etc. Si puissantes que soient les forces latentes de l'âme humaine, il y avait là des abîmes que son œil ne pouvait sonder, des mystères dont elle ne pouvait déchirer le voile, précisément à cause de cette faculté mystérieuse qu'on appelle la liberté. Puissance insondable, dont l'âme même, qui en jouit, ne peut prévoir les actes avec certitude à cause de sa spontanéité. Est-il nécessaire maintenant de démontrer que la troisième prophétie de Jeanne supposait également une révélation divine? Le duc d'Orléans languissait captif à Londres depuis la bataille d'Azincourt, 1415. Jeanne annonce qu'il rentrera dans sa patrie et elle fait cette prédiction en 1427, à un moment où le royaume de France semblait sur le penchant de sa ruine. La parole de Jeanne ne se réalisa qu'en 1440, après un concours d'événements inouïs et par la libéralité de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, ennemi acharné du roi au moment où Jeanne annonçait cette délivrance. Il faut reconnaître, comme M. Albert Réville, ici le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Loco cite, citation, loco C-I-T, point. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Il faut reconnaître, comme M. Albert Réville, que les prophètes voient étonnamment juste et loin. Mais sans appuyer tant sur le mystère qui cache à nos yeux les déterminations futures de la liberté humaine, quelle merveilleuse connaissance de toutes les causes naturelles, de leurs effets, des forces respectives des Anglais et des Français, ne fallait-il pas à cette jeune bergère de 17 ans? Supposez un homme de génie à qui Dieu a révélé toutes les décisions des volontés humaines. Il ne parviendra pas à prévoir ce que Jeanne a prévu, parce qu'à l'action de la liberté humaine s'est mêlée dans ces événements l'influence de mille causes naturelles qu'il est au-dessus de l'homme de connaître et d'enchaîner. À ce don de prophétie, Jeanne a parfois uni l'intuition, ou plutôt la connaissance instantanée d'événements qui se passaient au loin. Ainsi, elle a connu et annoncé le jour même la défaite des Français à la journée dite des Harengs, quoique la bataille se fût livrée à Rouvray et qu'elle se trouvât elle-même à Vaucouleurs, c'est-à-dire à 100 lieues du théâtre du combat. Comment expliquer ce phénomène merveilleux? Quelle relation a pu s'établir entre l'intelligence de Jeanne et ce fait matériel qui se passait au loin? L'intelligence humaine saisit les objets matériels au moyen des sens, et ce qu'on appelle seconde vue ne peut être qu'une surexcitation des facultés de nos sens, ou bien une révélation faite par un être supérieur. Vouloir expliquer la connaissance qu'eut Jeanne de la défaite des Français par la perception sensible qu'elle aurait eue des événements matériels qui se passaient à Rouvray, c'est aller contre toutes les données de l'expérience. Si parfois on rencontre des personnes dont les sens délicats perçoivent ce qui n'est point perceptible pour d'autres, il ne s'agit jamais que de faits se passant sur le corps même du sujet, ou vus à des distances très minimes. Ici, la distance est de 100 lieues. Au reste, si Jeanne eût perçu le combat au moyen des sens, elle eût pu en décrire les circonstances, et pour se concilier, l'estime de Baudricourt. Elle l'eût certainement fait, tandis qu'elle se contente d'annoncer l'échec des Français. Que l'on compare les exemples de seconde vue fournis par l'histoire avec le fait en question, et on verra la différence. Une personne douée de seconde vue aurait dit qu'elle voyait des soldats, une lutte, des morts, des blessés, des troupes en fuite et le reste. On sait que généralement ces personnes voient l'événement matériel, en exposent les détails sans presque s'en rendre compte et sans donner le résultat final. Jeanne, au contraire, ne connaît que le résultat. Ces personnes assurent qu'elles voient, entendent. Jeanne assure que ces voix lui racontent. Si par l'expansion de ses facultés naturelles, elle voit la bataille, pourquoi ne le dit-elle pas? Pourquoi ment-elle en disant que d'autres lui racontent? En somme, le combat de Rouvray était imperceptible pour Jeanne. Même douée du don de seconde vue et la manière dont elle le raconte écarte toute idée de perception sensible. Les preuves forment une ample démonstration de l'origine divine des révélations de Jeanne, pour toute intelligence exempte de préjugés. Cependant, elles n'ont pas convaincu tous les esprits, et l'on s'est ingénié à découvrir des traces de la faiblesse humaine dans cette œuvre toute divine. Toutes les objections peuvent se ramener aux deux suivantes. Si les révélations de Jeanne viennent du ciel, il faut leur reconnaître l'infaillibilité. Or, Jeanne s'est trompée. Elle a annoncé qu'elle ferait entrer le roi à Paris et que dans 7 ans, les Anglais perdraient tout en France, ce qui ne s'est point réalisé. En second lieu, si on attribue les faits merveilleux de la vie de Jeanne à une intervention surnaturelle, entre guillemets, ces phénomènes s'étant produits aussi communément en dehors qu'au-dedans des religions mosaïques et chrétiennes, il faut admettre les miracles du diable à côté des miracles de Dieu, et rentrer ainsi franchement dans la légende. » Fin de la citation. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page, portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. « Monsieur Henri Martin, histoire de Jeanne d'Arc. » Retour au texte de l'abbé Jaugé. En second lieu, si on attribue les faits merveilleux de la vie de Jeanne à une intervention surnaturelle, ces phénomènes s'étant produits aussi communément en dehors qu'au-dedans des religions mosaïques et chrétiennes, il faut admettre les miracles du diable à côté des miracles de Dieu et rentrer ainsi franchement dans la légende. Toute révélation qui vient de Dieu est exempte d'erreur, et c'est là un privilège qui lui est propre. Si donc Jeanne d'Arc s'est trompée dans les prédictions qu'elle attribue à ses voix ne viennent pas de Dieu. Mais il faut observer que toutes les prophéties sont tantôt absolues, tantôt conditionnelles, et qu'on n'a pas le droit d'accuser d'erreur le prophète dont la prédiction ne s'est point réalisée, si la réalisation en était subordonnée à une condition qui a manqué. Parmi ces conditions, il en est de spécial que le prophète doit faire connaître pour n'être point taxé d'erreur. Mais il en est d'autres qui sont dans la nature des choses et que la plupart du temps, le prophète n'exprime pas parce qu'on les sous-entend dans le langage ordinaire de la vie. Jeanne a des prédictions, et notamment celle de la prise de Paris, qui rentre dans cette dernière catégorie. Elle annonce aux habitants de Troyes que le roi entrera, entre guillemets, dans Brief à Paris. Fin de la citation. Naturellement, cette prophétie emportait avec elle la condition que le roi prendrait les mesures suggérées par une prudence ordinaire pour l'assaut d'une grande place, c'est-à-dire qu'il irait dans Brief assiéger Paris avec une armée convenable. Et ici, il est bon de remarquer que la Pucelle avait toujours réclamé des hommes d'armes, disant, 2 points, « Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. » Or, le roi, après son sacre, refuse de marcher de suite sur Paris, et laisse débander son armée. Évidemment, la Pucelle ne le conduira pas dans sa capitale malgré lui, la condition mise à la prophétie manquant, la prophétie ne peut se réaliser. Cependant, Jeanne finit, après de longs délais, par décider le roi. Mais le moment marqué par ses voix était passé, et au jour où l'armée se présente devant Paris, les voix se taisent. Jeanne elle-même nous atteste dans son procès qu'elle a fait l'attaque de Paris sans commandement de son conseil. Et encore, elle eût probablement fini par fléchir ses voix et emporter la place. Mais les chefs firent retirer l'armée et la contraignirent elle-même à quitter le siège et à s'éloigner de Paris, entre guillemets, « contre le vouloir du Seigneur », dit-elle. L'insuccès de Jeanne devant Paris n'est donc pas une raison pour attaquer l'infaillibilité de ses révélations. Voyons si la seconde accusation est mieux fondée que la première. Voici les paroles de Jeanne tirées des pièces de son procès. Deux points. Ouvrez les guillemets. Avant qu'il soit 7 ans, les Anglais délaisseront un plus grand gage qu'ils n'ont fait devant Orléans et perdront tout en France. Les Anglais auront la plus grande perte qu'ils aient jamais eue en France, et ce sera par une grande victoire que Dieu enverra aux Français. Je sais cela par révélation, aussi bien que je sais que vous êtes là devant moi. » Fin de la citation. Jeanne, dit-on, a prédit la prise de Paris avant 7 ans. Elle a eu lieu, mais les Anglais ont encore gardé quelques places en France pendant 25 ans. En disant qu'ils perdraient tout avant 7 ans, Jeanne s'est donc trompée. L'objection est vraiment puérile. Le mot « tout » doit s'entendre ici dans un sens moral. Le contexte l'indique clairement. Deux points. Les Anglais perdront tout, entre guillemets, c'est-à-dire ne garderont plus en France qu'une puissance insignifiante. Dans 7 ans, il en sera fait de leur domination, et ils devront renoncer à l'espoir de gouverner la France. Que ce soit là le sens des paroles de la Pucelle, ce qu'elle ajoute ne permet pas d'en douter. Après avoir dit qu'ils perdront tout, elle explique ainsi sa pensée. Deux points. Ouvrez les guillemets. Les Anglais auront la plus grande perte qu'ils aient jamais eue en France. Fin de citation. C'est-à-dire la perte de Paris, qui entraînera celle de tout le royaume. Quand même Jeanne n'eut pas pris soin de préciser son idée, nous devrions interpréter ses paroles comme je viens de le faire. En effet, dans cette prédiction, elle a été certainement douée de l'esprit prophétique, puisqu'en 1431, elle annonçait avec certitude la prise de Paris qui ne devait avoir lieu qu'en 1436. Et ce qui est aussi étonnant, elle en fixe l'époque. On est donc fondé à croire que l'esprit qui l'a inspiré dans une partie de sa prophétie a également dicté ses autres paroles, et par conséquent, on est autorisé à choisir, parmi les différents sens qu'offre sa phrase, celui qui concorde le mieux avec la vérité. À l'aide des observations que je viens de faire sur ces deux prédictions, on peut résoudre toutes les difficultés que présenteraient de prime abord les prédictions de Jeanne mises en regard de l'histoire. Il est bon aussi de remarquer que les réponses de Jeanne n'ont pas toujours été fidèlement rapportées par les notaires chargés de les recueillir. Les témoins du procès de réhabilitation, ici le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Entre autres, Guillaume Manchon, premier greffier du procès de condamnation. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Les témoins du procès de réhabilitation assurent que, plus d'une fois, Cochon a défendu de transcrire textuellement les paroles de l'accusé et que souvent les rédactions des différents secrétaires ne concordaient pas entre elles. Il faut donc s'en tenir à l'idée plutôt qu'aux mots. Comme on le voit, c'est en vain qu'on chercherait à dépouiller la parole de Jeanne de cette infaillibilité qu'elle possède incontestablement et qui la marque d'un caractère divin. Arrivons à la seconde objection. Si l'on attribue à une intervention surnaturelle les merveilles de la vie de Jeanne d'Arc, il faudra admettre les miracles du diable à côté des miracles de Dieu et rentrer ainsi franchement dans la légende. Une pareille objection dans la bouche d'un historien distingué comme M. Henri Martin ne se comprend vraiment pas. Quel est en effet le premier devoir de l'historien, sinon de constater les faits? Si donc à côté des miracles divins, je rencontre des prodiges diaboliques, mon premier soin sera de les admettre, et je ne les rangerai pas au nombre des événements légendaires, pour ce seul motif qu'ils sont des prodiges. Lorsque ces prodiges seront accompagnés de témoignages propres à produire la certitude historique, je les inscrirai parmi les événements historiques à côté des miracles divins. Le ciel n'a rien à redouter de la comparaison de ses œuvres avec celles de l'enfer. La vérité chrétienne n'a rien à craindre pour la solidité de ses preuves des contrefaçons de l'erreur. La vérité historique est le premier fondament du christianisme. J'admets donc l'origine divine des révélations de Jeanne parce qu'elles m'apparaissent avec tous les caractères de la certitude et je n'ai rien à craindre des prodiges diaboliques qu'on peut leur opposer parce que les miracles divins portent avec eux un cachet inimitable. Trop longtemps, hélas, on a refusé de reconnaître chez Jeanne l'un des plus beaux privilèges dont le ciel l'est doté. Mais la vérité perce enfin les nuages qui l'enveloppaient et l'œuvre de Dieu paraît dans toute sa splendeur. Jeanne marche à côté des Gédéons et des Déborah, si même elle ne les surpasse. À qui, en effet, la comparer dans l'histoire? Elle vit familièrement avec les anges et les saints de Dieu et sauve la France par leur secours. À peine parmi les saints que l'Église a placés sur ses autels en trouve-t-on quelques-uns qui aient été en relation plus intime, entre guillemets, avec leurs frères de paradis. Fin de la citation. Et on n'en trouve pas dont les révélations aient exercé une pareille influence sur les destinées de leur pays et même de l'Église, puisque servir la France, c'est servir l'Église. Fin de la deuxième partie de 2, du chapitre 4, de l'étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger.